On avait commencé. Hein.
Eliezer est au puits et il met en place le test grâce auquel il espère pouvoir trouver la future femme d'Yitzhak. Donc, il est là. Il s'est mis à l'endroit où il a le plus de chances de voir arriver les jeunes filles. Et alors il dit, voilà, je me tiens là, sur le puits, la source d'eau. Les jeunes filles de la ville vont arriver, etc. Et Veria Nahara, cher Omer Elea, Atina Kader, la jeune fille à laquelle je dirais, penche s'il te plaît, ta cruche vers moi, que je boive, et qui va me répondre, bois et je vais aussi abreuver tes chameaux. C'est la fille que Hachem a choisie pour Yitzhak. Alors, la première chose que fait le Midrash, c'est de critiquer le test en question. Et il dit, Midrash dit, il y a quatre personnages, Arba Hen, Shetavu Sheloko Hogen, et quatre personnes qui ont demandé, formulé les choses d'une façon incorrecte. Le Shlosha Nitan Kogen, mais trois d'entre eux ont donné ce qu'ils avaient demandé comme s'ils l'avaient bien formulé. Et l'un d'entre eux, on lui a répondu improprement, c'est-à-dire on lui a dit quelque chose, on lui a répondu en fait, chez Loke Hogan, c'est-à-dire d'une mauvaise façon en quelque sorte. Il a reçu quelque chose qui n'était pas vraiment ce qu'il voulait. Alors les trois personnages, ce sont Eliezer, Caleb, Shaoul et Iftar. Eliezer, c'est ici. Eliezer, c'est la raison pour laquelle ce midrash est ici. Parce que quand il a dit « la fille à laquelle je dirai, etc. » et qui va me répondre comme je l'ai demandé, mais tu ne la connais pas. Et si c'est une esclave qui répond, est-ce que tu penses que c'est la fille adéquate pour épouser Yitzhak? Mais néanmoins, Akadosh Baruch lui a répondu positivement en quelque sorte. Le pasuk dit Veine Rivka Yotset. Voilà, Rivka sort. Etc. Kalev. Donc, Caleb, c'est l'explorateur qui a résisté au complot des 10 autres. On ne parle pas de Joshua, parce que Joshua, il avait reçu un statut à part du fait qu'il était l'élève de Moshe. Mais Caleb, c'est lui qui s'est débrouillé tout seul, en fait, pour ne pas suivre le complot. Et lui aussi, il a dit, celui qui va faire la guerre et qui va conquérir Kiryat Sefer, je lui donnerai ma fille Aksa en mariage. Là aussi, quoi. Et si c'est un esclave qui fait le travail, lui, il a eu de la chance parce qu'en fait, c'est Otniel qui est arrivé. C'est Otniel qui a conquis Kiryat Sefer. En fait, Otniel, c'est quasiment son frère. Otniel, c'est celui qui a qui a sauvé la mise de Yoshua. Vous vous souvenez, Yoshua, au moment où Moshe Rabbeinu a senti qu'il allait disparaître, il a appelé Yoshua et il lui a dit, voilà, je vais mourir. Pose-moi toutes les questions qui te restent. Et Yoshua a répondu, mais tu as écrit toi-même dans la Torah que j'ai jamais quitté le Bet HaMidrash. Je n'ai pas de questions. À la mort de Moshe, Yoshua a oublié 3000 halakhot. Alors, les gens lui ont dit, fais comme Moshe, va demander à Hachem qu'il te les redonne. Mais c'était terminé. Cette période-là, elle est finie avec Moshe Rabbeinu. Plus personne ne peut maintenant aller demander une réponse à Hachem. Donc Hachem lui a dit, non, je te réponds pas, je peux pas te répondre. Et donc il y a Chazal qui disent que le peuple voulait lapider Yoshua. Il a été sauvé parce que Otniel, par la force de son pilpoul, de son étude, il a été capable de retrouver ces 3000 halakhot. Alors, en passant, on apprend ici, de là, que la Torah n'est pas un système minimal, quoi, si on peut parler comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des redondances dans la Torah, et grâce à ces redondances, grâce aussi à toutes sortes de règles d'herméneutique qui permettent de retrouver les choses de la Torah, ça veut donc dire que certaines choses sont dites dans la Torah de deux fois ou de deux manières différentes, une sous forme allusive peut-être, une autre forme plus explicite, etc. On a des fois dans la Gemara une situation où, sur un sujet, on a un verset qui nous dit, voilà comment on doit faire les choses. Et puis, par ailleurs, on a un raisonnement par Kal Vachomer qui nous dit la même chose. Et la Gemara, elle dit que effectivement, dans certains cas, la Torah, elle s'est fatiguée, elle a écrit un verset qui n'était pas nécessaire parce que par Kal Vachomer, tu pouvais obtenir le même résultat. Donc pourquoi dans certains cas il y a un redoublement, dans d'autres cas il n'y a pas, ça je ne sais pas, je ne sais pas répondre. Je ne sais pas s'il y a une réponse à cela, mais en tout cas moi je ne la connais pas. Peut-être que c'est au coup par coup qu'il faut regarder. Et donc grâce à ça, Otniel a pu retrouver les halakhot. Si le système avait été minimal, c'est-à-dire que si les choses n'avaient été écrites qu'une seule fois, ben, si on les a oubliées, on les retrouve plus. Donc, il a eu de la chance, c'était Othniel. Shaoul a dit aussi, ça c'est dans la fameuse histoire avec Goliath, il a dit, si quelqu'un le tue, le roi va le combler de richesses, il lui donnera sa fille et il la franchira à la maison de son père en Israël. Là aussi, et quoi, si c'était un esclave, tu lui aurais donné ta fille en mariage, tu aurais comblé de richesses, etc. Mais Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que celui qui a rempli les conditions pour épouser Michal Bat Shaul, c'était David. Alors, ces trois-là, ils ont eu, on peut dire, de la chance. Bien qu'ils aient mal formulé les choses, on leur a répondu comme s'ils avaient bien formulé. Celui chez lequel ça n'a pas marché, c'est Iftar. Donc, Iftar, c'est un juge. Un juge, c'est quelqu'un, un des chefs du clan Israël, ou de certaines tribus du clan Israël, entre le temps de Yoshua et le temps des rois. Le premier roi, c'est Shaoul. Et alors, entre Yoshua et Shaoul, il y a eu une période où les gens faisaient un peu ce qu'ils voulaient, et ils étaient dirigés par des juges. Vous en connaissez d'autres, vous en connaissez quelques-uns, par exemple, tout le monde connaît Shimshon. Si on ne connaît pas Shimshon, on connaît Dalila. Donc, on peut retrouver. Et Shmuel en était un aussi. Et Iftar en est un. Iftar, c'était pas un grand Talmid Chacham du tout. C'était plutôt un ignorant. Il était un bon guerrier. Et à un moment donné, il y a eu à faire une guerre contre l'Angleterre. La guerre, c'était toujours contre les Philistins. Les Plishtim, parce que les Plishtim faisaient des razzias. Et ils volaient donc la nourriture. Donc, bon, et puis ensuite, très souvent, ils gagnaient la guerre contre les Israël, et puis il fallait quelqu'un pour mener la révolte et faire la guerre contre les Plishtim, etc. Et on est venu une fois le chercher, lui, Iftar. Et quand il est parti à la guerre, il a dit, il a voulu obtenir une bracha d'Hachem. Alors, il a dit, le premier être qui sortira de ma maison et viendra à ma rencontre lorsque reviendrai en paix, lorsque j'aurai gagné la guerre, donc, j'en ferai offrande à Hachem. Bon, ça, c'est mal formulé, comme on va voir, mais c'est tout à fait, c'est très bien, quoi. Mais il a mal formulé, et on lui dit, et si le premier être qui sort, c'est un chameau, un âne, un chien, tu vas l'offrir en Ola à Hachem. Et Hachem ne lui a pas... Hachem ne lui a pas répondu comme... de la bonne façon. Bon, on peut dire, sans entrer dans les détails, que dans les cas précédents, c'était pas directement avec Hachem qu'on en avait. Tandis que lui, il parle d'apporter un corban. Et il a mal formulé apporter le corban d'Hachem. Par rapport à Hachem, la formulation, c'est plus exigeant que par rapport à quelqu'un d'autre. Et donc, c'est sa fille qui est sortie en premier. Et lui, il a pensé que ça voulait dire qu'il va falloir qu'il offre sa fille en sacrifice. Et quand il a vu la fille qui sortait avec tambourin, avec des danses, etc., il a déchiré ses habits en signe de deuil. Alors, en vérité, la question halakhique, elle est un peu traitée ici dans le Midrash. Rabbi Yochanan dit, en fait, à quoi est-ce que Iftar était astreint dès lors? Son vœu, là, l'offrande qu'il allait donner, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il doit apporter? Évidemment, il ne peut pas apporter sa fille. Rabbi Yochanan lui dit, qu'est-ce qu'il doit faire? Simplement, on va évaluer la valeur marchande de sa fille, comme on évalue toujours la valeur marchande de quelqu'un en regardant combien il vaudrait si on le vendait au marché aux esclaves, par exemple. Et puis, c'est cette valeur-là, c'est cet argent-là qu'il devra donner à Ekdesh, c'est tout. C'était ça, halakhiquement, ce qu'il aurait dû faire. Et Reish Lakish, il dit, même ça, il n'est pas du tout redevable de ça non plus. Parce que si on dit au sujet d'animaux impurs, ou des balemumim, on dit que ces animaux-là soient des holotes, on n'a rien dit. On n'a rien dit, c'est comme si on n'avait pas parlé. Donc, ce qu'il a dit, lui, ça revient à dire, est-ce que ma fille deviendra un Ola, non. C'est comme s'il n'avait rien dit du tout. Donc, il n'a même aucune obligation, même matérielle, même pas d'argent à donner. Mais lui, il ne le sait pas, évidemment, parce que c'est un ignorant. Mais le Midrash dit, mais en vérité, ce vœu-là qu'il a fait, c'est un vœu que Iftar a fait. Il y avait Pinchas qui était le Kohen Gadol à ce moment-là. Et le Kohen Gadol aurait très bien pu délier, défaire le vœu de Iftar. Seulement, il lui fallut que Iftar vienne chez lui. Et Pinchas a dit, Il a besoin de moi. Pourquoi est-ce que c'est moi qui devrais me déplacer pour aller chez lui? Je suis grand prêtre, Kohen Gadol, fils de Kohen Gadol, et je devrais me rendre chez un roturier, chez un Amoret, un Maharetz, etc. Et Iftar, de son côté, il pensait, mais moi, je suis le... Bon, ils ont traduit le chef des capitaines, mais donc je suis le général qui a gagné la guerre. Pourquoi est-ce que je devrais, moi, aller chez Pinchas? Et entre l'un et l'autre, chacun qui ne voulait pas aller chez l'autre, par Kavod, la jeune fille, elle est perdue, quoi. Les gens disent qu'entre la coucheuse et la femme qui est en couche, si elles ne se mettent pas d'accord, alors qui est-ce qui va trinquer? C'est le bébé. Et les deux, Pinchas et Iftar, ont été punis. Iftar, il a eu une maladie qui faisait qu'il perdait les membres de son corps. Et on l'entend dans le texte, c'est marqué qu'il mourut et fut inhumé dans les villes de Gilad. On aurait dû dire dans la ville de Gilad. Pourquoi dit dans les villes? Parce que partout où il allait, il perdait les membres qu'on enterrait. Et Pinchas, il a perdu le roi HaKodesh. C'est marqué qu'il avait été leur prince. À ce moment-là, Hachem était avec lui, mais il était avec lui, il n'est plus avec lui-même. Donc la première chose ici, tout s'est très très bien déroulé pour Eliezer. Tout marche bien. Pour l'instant, il a eu Kvitsat Haderech, par exemple. Il a fait en un jour le voyage qui normalement prenait quelques jours. Il ne le sait pas encore, mais il est arrivé dans la famille d'Abraham, quelque part, déjà. Mais quand il a demandé les choses, il a pas parlé comme il fallait. Ça veut dire que on peut être l'alter ego quasiment d'Abraham Avinu et ne pas savoir comment formuler les choses. Il n'est pas tout seul, on a vu des géants comme Caleb, comme Shaoul, eux aussi se sont trompés. Mal formuler les choses. Quand on demande à Hachem quelque chose, il faut réfléchir au terme, à toute la terminologie qu'on utilise. Donc c'est la première chose. Mais même malgré tout, il demande des choses, elles ne sont pas bien formulées, mais néanmoins, le texte dit Vahi hu terem kila le daber. Et le texte dit Eliezer n'avait même pas fini de parler. Il a été exaucé. Et là, de nouveau, on nous dit, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, il y a trois hommes qui ont été exaucés avant même qu'ils aient fini de parler. C'est-à-dire, en fait, ils ont été exaucés. Au début, on dit que c'est-à-dire, ils étaient en train de formuler les choses, ils ont déjà été exaucés. Alors, c'est Eliezer, Moshe Rabbeinu et Shlomo Amelech. Alors, Eliezer, c'est ici, parce que le Passouk dit, effectivement, au sujet de Rivka, on parle d'Eliezer, « Vaï terem kilal daber, veine Rivka yotzet ». Il n'avait pas terminé de parler, que Rivka était déjà en train de sortir. Elle sort, elle a la cruche, etc. Et c'est Rivka, la fille de Betuel, le fils de Nahor, qui est le frère d'Abraham. Moshe Rabbeinu, c'est marqué Vahi, donc l'histoire de Korach, Vahi Kralotol Daber et Koladvarim Aele. Moshe Rabbeinu a dit, mais si ces gens-là, ils meurent de mort naturelle, ça veut dire que c'est moi qui ai tout inventé, comme Korach le dit. Et donc, il n'avait pas terminé. Vatibaka Adama. La mer s'est fendue, la terre s'est fendue et Korach et son équipe ont été avalés. Et c'est Shlomo HaMelech, à l'inauguration, voyez, donc, Kichalot Shlomo Leitzpalel, Vaesh Yarda Me'ashamayim. Il n'avait pas fini de prier que le feu est déjà descendu du ciel. Et il a consumé tous les corbanotes qui avaient été préparés. Donc. Chez Eliezer, c'est particulier. Chez Moshe, effectivement, ils sont exaucés avant même d'avoir terminé. C'est un pasouk. Teremikru vani ene. Avant même qu'il ne m'appelle, je réponds déjà. Mais on vient d'expliquer que chez Eliezer, c'était mal formulé. Donc on aurait pu dire, ok, alors Hachem, il va pas répondre de façon extraordinaire à quelque chose de mal formulé. Alors, non seulement il ne lui tient pas rigueur de ce que c'est mal formulé, mais en plus, il lui répond avant même qu'il ait terminé. Tout ça, c'est le mérite d'Abraham Avinu, évidemment. Donc ici, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que Hachem répond avant qu'ils aient terminé de parler? Il y a une différence entre une réponse tout de suite après qu'ils aient terminé de parler et une réponse avant qu'ils aient terminé de parler. Qu'est-ce qu'on nous dit là de tellement extraordinaire? Ok, c'est vrai, il n'a pas eu besoin de. Mais ça dit quoi vraiment, cette histoire? Qu'est-ce que vous entendez là dans cette formulation?
Est-ce qu'on pourrait dire que Hachem est. Enfin, il y a une proximité du demandeur. Hachem est déjà très proche. Il comprend tout de suite la demande que.
Donc, c'est un petit peu difficile. Il est évident qu'Hachem sait ce qu'ils vont demander avant qu'ils le demandent. Donc, c'est pas ça le ridouche, parce que ça, c'est. Voilà, c'est vrai pour chacun que Hachem sait. Le problème, c'est qu'il répond. Il y a une réponse avant que la chose soit complètement formulée. Bon, je pense que vous avez raison. C'est un peu comme des gens qui sont très très proches. Ils n'ont pas besoin de parler complètement. ils se connaissent et on sait des fois même avec un, je sais pas, un clignement des yeux ou un mouvement des lèvres ou de la tête, etc. On se comprend. Ça se passe dans les vieux couples, etc. On n'a pas besoin de formuler les choses. C'est révélateur, je pense, comme vous dites très justement, c'est révélateur en tout cas d'une extrême intimité, en fait, entre Hachem et celui qui parle. C'est-à-dire, c'est comme si, voilà, on se connaît tellement bien qu'on n'a pas besoin de formuler les choses complètement. C'est pas un chidouche que Hachem le savait. C'est que bon, ok. Et ça fait aussi que, d'une certaine manière, on a gagné du temps, quoi. On gagne du temps. Ça veut dire, ça va aussi dans le sens de la kvitsata derech. Les choses ne prennent pas tout le temps qu'elles prennent normalement. On a besoin d'un certain temps pour la communication. Ici, la communication, elle se fait en moins de temps que chez monsieur tout le monde. Donc ça, c'est un signe de proximité. On n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout des choses. Elles s'entendent déjà. Et donc, c'est comme si Hachem disait, bon, entre nous, t'as pas besoin de le dire, je le sais. Alors, tu vas quand même le faire, tu vas quand même le dire, mais on va pas, c'est pas nécessaire d'aller jusqu'au bout. Là, on voit que c'est pas chaque fois que mon cher Rabbi nous parle, ou chaque fois qu'Eliezer parle, ou chaque fois que Shlomo HaMelech va parler, ou prier, qu'Hachem répond. Ici, il s'agit de situations particulières. On est quand même ici en train de c'est le début d'un peuple, en fait. Il y avait Abraham, mais bon. Le problème, c'est qu'est-ce qui va assurer la descendance? Il y a Yitzhak, mais si Yitzhak, lui, à lui tout seul, il peut pas assurer une descendance. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. On construit la deuxième génération qui est porteuse de la suite, qui est porteuse de du développement, de la suite du développement du peuple juif, si on peut parler comme ça. Chez mon cher Rabbeinu, c'est tout le problème du statut de la Torah que mon cher Rabbeinu nous a enseigné. Korach, c'est quelqu'un qui vient et qui dit, mais le législateur, c'est Moshe. Il fait ce qu'il veut. Le cas échéant, il nomme ses petits copains, ses préférés, etc. Et donc, Korach est en train de dire que la Torah, elle n'est pas mise à Shamaïm. Korach est en train de dire que la Torah, c'est l'invention de Moshe Rabbeinu. Donc c'est tout le statut de la Torah. Celui de Moshe Rabbeinu, le statut de la Torah. Donc on voit que c'est ultra important ici. Et puis c'est l'inauguration du Beit HaMikdash. Là aussi, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Le Beit HaMikdash, c'est enfin l'endroit construit d'après les plans de David HaMelech, le désir de David HaMelech. Et voilà, c'est construit en dur, etc. On a concrétisé l'endroit qui est présenté comme tu m'apporteras les corbanotes à l'endroit que je te dirai d'apporter, quoi. Et du coup, avec le Beit HaMikdash, c'est la fin, en gros, c'est la fin de toutes les bamotes, de tous les hôtels. Il n'y a plus qu'un seul endroit où on peut apporter les corbanotes. C'est fini, on ne peut plus apporter ça un peu n'importe où. Donc c'est vraiment un changement radical. Trois moments vraiment très très importants dans l'histoire du clan Israël. que ces moments-là n'aient pas besoin que les hommes les formulent jusqu'au bout, mais que quelque part, ça se fait avec Hachem, en quelque sorte. Et Hachem est, c'est comme si Hachem était partie prenante, pas seulement de la réponse aux demandes des hommes, mais il est partie prenante de la question aussi. Bon, puisqu'il répond à la question, c'est comme s'il finissait lui-même la question. C'est-à-dire que dans ces trois situations, chez Eliezer, par exemple, on a l'impression que c'est qu'il est, comme on l'a dit, Eliezer, il a mis au point un test. Mais d'une certaine façon, tel que c'est décrit ici, Hachem, il est aussi dans la formulation de ce test. Et ce, bien que la formulation ne soit pas vraiment bonne. Mais néanmoins, il termine la phrase. Donc, il est aussi dans la formulation du test. Quand Moshe Rabbeinu dit, mais ce dont Korach m'accuse, c'est d'avoir inventé la Torah. Alors, Hachem complète, il dit, c'est vrai, c'est un scandale. Il est du côté de Moshe Rabbeinu, il dit, mais qu'est-ce que tu accuses là? C'est pas simplement Moshe Rabbeinu a demandé que la terre s'ouvre, elle va s'ouvrir. Hachem aussi demande que la terre s'ouvre. Et le Beit HaMikdash, c'est une construction humaine, mais Hachem est partie prenante à la prière de Shlomo HaMelech au moment à l'inauguration du Beit HaMikdash. Ce n'est pas les hommes qui font les choses, et Hachem répond seulement. Hachem, il est des deux côtés à la fois. Et c'est intéressant parce que être des deux côtés à la fois, c'est ce que mon cher Rabbi nous va demander. Vous vous souvenez, je vous ai déjà, je sais pas cette année, mais j'ai déjà expliqué plusieurs fois que quand Moshe Rabbeinu a ajouté un jour, vous vous souvenez, il a ajouté un jour, il a décalé le don de la Torah d'un jour. On avait expliqué que ce faisant, Moshe Rabbeinu était partie prenante au don de la Torah. Il n'est pas seulement du côté du récepteur, mais il est partie prenante au don, puisque c'est lui qui fixe le moment où le don est donné. Bon, puisqu'il a dit non, le don, il aura lieu demain. Donc quand on donne, on est le maître à la fois de l'objet qu'on donne, et aussi le maître du moment où on veut le donner. Alors mon cher Rabbeinu, en décalant le jour du don, il se met du côté du donateur. Donc, Moshe Rabbeinu voulait que le clan Israël ne soit pas seulement celui qui reçoit la Torah, mais aussi celui qui la donne, qui se la donne. Donc ici, on a un peu la même chose, mais à l'envers. C'est Hachem qui se met du côté des hommes, en fait. Hachem aussi, il est là dans la prière. Alors, il dit à... Donc, il a pas fini de parler que déjà, etc. Alors maintenant, voilà, elle sort. Vous vous rappelez quand Eliezer a dit à Abraham, Peut-être que la fille ne voudra pas venir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'amène ton fils là-bas? Alors là, Abraham lui a dit, pas question. Et puis il a dit, Hachem qui s'est occupé de moi, etc., il va t'envoyer son malach. Et on avait vu dans le Midrash, en réalité, Hachem a envoyé deux malachim. Un malach pour protéger Eliezer, et un malach pour faire sortir Rivka. On s'était demandé qu'est-ce que ça veut dire faire sortir de quoi? Sortir d'où? Alors on peut dire c'est sortir, ça veut dire qu'elle soit d'accord de sortir de cette famille. Mais avant cela, il y a des Chazal qui disent que ce n'était pas du tout l'habitude de Rivka d'être la bergère. Elle avait jamais fait ça. Donc le malach, il est venu pour fabriquer une situation particulière. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les fils de Lavan, qui sont d'habitude ceux qui allaient au puits, etc., amener les troupeaux, est-ce qu'ils avaient le Covid, ils ne pouvaient pas venir, ou ils étaient contacts, je ne sais pas. Ils ne pouvaient pas aller peut-être au puits parce que il n'y avait plus de masque, je ne sais pas, on ne peut pas savoir. Mais il fallait la faire sortir. Donc elle est sortie de chez Lavan, est sortie, et c'est pour ça qu'on utilise le terme Iné Rivka Yotset, elle sort. D'où elle sort? Elle sort de chez elle et c'est tout nouveau. Elle n'est jamais sortie de chez elle. On va voir pourquoi c'est important de dire qu'elle n'est jamais sortie de chez elle avec ce qui vient maintenant. Donc, il la voit, cette fille, il voit cette fille. Et le pasouk dit, Ve'anara, et la jeune fille était Tovat Mare. Elle était très belle d'apparence. Me'od, très très belle. Betula, elle était vierge. Ve'ish Loyeda, et aucun homme ne l'avait connu. Alors, vous entendez déjà dans ce verset qu'il y a un peu de redondance. Alors, le Midrash, il commence par donner une halakha. Il dit la chose suivante. Bukat etz k'tuvata matayim. Livré Rabbi Meir. Chachamim omrim, bukat etz k'tuvata mané. La ktouva, c'est donc une reconnaissance de dette que vous avez signée quand vous êtes marié. Vous avez reconnu une dette. Alors, c'est-à-dire, il y a dans la ktouva aussi toutes les obligations d'un mari pour sa femme. Et puis, il y a un certain montant qui est écrit dans la Ktouba. Et ce montant-là, c'est un dû que la femme va recevoir dans deux circonstances. Si la femme devient veuve, alors les héritiers du mari, les héritiers de, oui, c'est vrai, c'est son mari, mais eux, les héritiers, ne sont pas obligatoirement les enfants de la femme en question. En tout cas, les héritiers vont devoir payer à la femme un certain montant, le montant de la ktouba. Et si l'homme divorce, alors c'est lui qui va devoir payer ce montant à la femme dont il divorce. Alors, ce montant, on peut le mettre à combien on veut, mais le minimum, c'est 212. 212. On avait dit que 212, c'est l'espèce de, d'une certaine manière, le seuil de pauvreté. Ou peut-être, disons, pour nous, on dirait, c'est un SMIG annuel. Au dernier mariage où j'étais, c'était aux États-Unis. Ils ne l'ont pas mis très haut, hein, ils l'ont mis à 15 000 dollars. C'est plutôt le seuil de pauvreté que le SMIC, quoi, annuellement. Donc ça veut dire, en fait, ce qu'on veut, c'est que la femme, elle ait de quoi tenir une année. Avec le minimum du minimum, mais là, un an. Ça, c'est pour une jeune fille qui se marie et qui est vierge. Maintenant, lorsque la fille n'est pas vierge, c'est-à-dire qu'en général, c'est le cas de figure, c'est quand une veuve se remarie, elle est évidemment plus vierge, alors le montant de la ktouba est de 100. Il est de la moitié. Donc ça, c'est le cas standard d'une almana, d'une veuve. Maintenant, il y a un cas, on parle ici d'un cas un peu intermédiaire. La fille, elle n'est plus vierge, c'est-à-dire l'hymen a été déchiré, mais ça s'est produit accidentellement. Elle a fait du cheval, ou elle a pris un coup, ou je ne sais pas quoi, elle est tombée, ou elle a fait un mauvais mouvement, ou je ne sais pas quoi, et ça s'est déchiré. Mais personne n'a eu de rapport avec elle. Alors, dans la Gemara, cette situation-là, elle s'appelle Mukat Etz. Elle a été frappée par un bois, par un morceau de bois. On veut dire par là que c'est pas un homme qui l'a pénétré, c'est un mouvement, un bout de bois qui a un peu pénétré et qui l'a déchiré. Alors, Rabbi Meir dit que dans ce cas-là, ben, pour lui, la virginité ne tient pas à l'hymen, mais la virginité, c'est de ne pas avoir été pénétré par un homme. Et les Chachamim disent non, nous, c'est l'hymen. S'il n'y a plus d'hymen, alors elle est comme une veuve. Comme, on ne s'occupe pas de savoir pourquoi ni comment. De facto, il n'y a pas d'hymen, alors elle a la moitié seulement. C'est de ça qu'on parle ici. Et le Midrash explique les positions de Rabbi Meir et des Rabbanan. Elle dit qu'en vérité, Rabbi Abahu, Mishem Rabbi Elazar, dit « Tamed Rabbi Meir » Ish lo yeda'a, quand on dit que personne, aucun homme ne l'a connu, mais ça veut dire ahim nivala me'etz, tout là. Ça veut dire que si jamais elle a été, son hymen a été déchiré par un bout de bois, elle reste. Pour lui, c'est ce qu'on a mis, on dit ish lo yeda'a. Donc elle est encore betula. Et la raison des Rabbanan, c'est Betula. Quand on a déjà dit Betula, on sait déjà Imnivala Me'etz et Nabtula. Mais on comprend bien que si Nivala, c'est-à-dire si elle a été pénétrée par un bout de bois, elle n'est plus Betula. Amar Rabbi Yochanan, lo Nivala Isha. Voilà, c'est ça, donc ça c'est terminé. Donc le Midrash, d'abord, il fait une petite révision de Halacha. Ensuite, ça c'était donc une marloquette entre Tanaïm, c'est des maîtres de la Mishnah. Ensuite vient Rabbi Yochanan, c'est un Amora, le grand Amora d'Eretz Israël, qui dit « L'onivala isha mimaoul le shmona trila el arifka ». Rabbi Yochanan dit « Rivka, elle a une qualité que personne d'autre n'aura jamais en fait ». C'est qu'elle est la première femme qui a été pénétrée par un homme qui a été circoncis le huitième jour. Le premier homme qui a été circoncis le huitième jour, c'est Yitzhak. Les autres ont été circoncis. Il n'y avait personne, au temps où Abraham a fait la mila de toute sa maisonnée, il n'y avait pas de petit enfant qui avait huit jours. Donc Yitzhak est le premier, et donc elle est la première femme qui a été pénétré par un homme, qui a la Mila par excellence, la Mila du huitième jour. Rish Lakish, donc c'est le beau-frère de Rabbi Yochanan, qui est au départ son élève et qui ensuite devient Azima, son égal. Il dit, les filles, il dit, pourquoi est-ce qu'on a cette redondance de, qui dit Ish Loïda, qu'est-ce que cette histoire que personne ne la connaît? Il dit, c'est parce que les filles des idolâtres, elles font très attention, Mimakom Ervatan, ça veut dire, elles préservent leur hymen. Ou Mafkirot, Atzman, Mimakom Acher. Mais elles se laissent pénétrer par d'autres orifices. L'essentiel, c'est qu'il y ait l'hymen. C'est des adorateurs de l'hymen, le l'hymen. Aval Zot, mais elle, Rivka, elle est Betula, Mimakom Betulim. Elle est, non seulement, elle est d'abord, elle est vierge au sens, elle a pas, l'hymen n'est pas déchiré. Veish lo yeda mimakom acher. Elle a été pénétrée par aucun homme d'une autre manière. Alors, Rabbi Yochanan lui dit, mais, imashma shenemar betula enanu yodim veish lo yeda. Lui dit, mais, est-ce qu'on sait pas du fait qu'elle est betula que personne ne l'a pénétrée? C'est-à-dire que Rabbi Yochanan, il n'est pas d'accord. Il pense que, Betula, ça veut dire vierge, pas seulement du côté de l'hymen, mais de tout autre orifice aussi. Elle a filo Adam l'otavaba. Mais c'était plus que ça. Ish lo yeda, c'est-à-dire personne n'a même rêvé de cette femme, enfin d'elle comme une femme. Pourquoi? Parce que personne ne l'a vue, elle ne sortait jamais. Al-Shem, qui lo yanouar shevet arasha, arasha, pardon, al-goral at-salikim. Il y a un pasouk dans Tehilim qui dit que le sceptre, donc la puissance du méchant, du mauvais, elle ne va pas reposer, elle ne va pas affecter le destin du tzadik, c'est-à-dire quelque part, le tzadik, il est inatteignable du tout. Donc voilà, elle a même pas fait l'objet de convoitise ou de désir, etc. Personne n'a rêvé de Rivka. C'est intéressant comme bon, les autres problèmes sont des problèmes très techniques, mais cette idée de que personne n'a même rêvé de Rivka. Elle n'a pas fait l'objet d'un désir de qui que ce soit à ce moment-là. C'est à ce moment-là parce que par la suite, il va y avoir des midrashim qui seront un peu ambigus quant à la position d'Eliezer par rapport à Rivka. Bon, c'est un sujet un peu délicat. Elle est descendue à la source et elle a rempli sa cruche. Vataal, elle est remontée. Alors, c'est un verset complètement inutile. Toutes les femmes descendent à la source. Toutes les femmes qui viennent pour remplir leur cruche, elles font ça. Hein. Elles descendent à la source, elles puisent, elles remontent. Parce que la Torah, elle, tout à coup, il y avait un petit reste d'encre dans la plume, il fallait écrire quelque chose. Kolanashim yordot. Ou malot et aïe. Zou, mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? Parce que elle, kevan shiraou ota maim miyamdalou. Les eaux, quand elles l'ont vue, immédiatement, les eaux sont montées vers elle. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, At siman lebanaych. Tu es un signe pour tes enfants. Ma'at kivan shirau otach hamaim miyadalu. De la même manière que les eaux, quand elles t'ont vu, elles sont montées à ta rencontre, en quelque sorte. Af banaych kivan shabeer roe otam. Théola. De même, le puits, quand il va voir l'Ebné Israël, le puits, l'eau du puits va monter. Comme c'est marqué, Az Yashir Israël et Ashira Azot, Ali Be'er Enola. C'est la deuxième Shira que l'Ebné Israël ont chanté quand le berge, c'est le berge de Myriam, où les eaux montaient vers elle. Donc, et ça, il a vu. Il a vu qu'il se passe quelque chose de particulier avec elle. Vayarot sa eved likrata. Le serviteur, l'esclave, il a couru à sa rencontre. Ça veut dire qu'il était juste à côté, il était là au puits. Et elle était au puits. Ça veut dire qu'il a couru à sa rencontre. Le Midrash dit l'ikrat maase atovim. Il a couru à la rencontre de ses bonnes actions. Du coup, il lui a dit, à ce moment-là, il a à la rencontre de ses bonnes actions, c'est-à-dire, il continue. Il dit, je vais voir si maintenant elle... c'est maintenant le test. Le test, ce n'était pas qu'elle vienne, c'était extraordinaire. Elle est sortie quand il fallait. Elle avait plein de qualités, etc. Les eaux viennent, mais ce n'est pas le test. Son test, à lui, c'est un problème de cruche. Alors, il lui dit, « Vayomer, agmiinina me'at mayim mikadech. » Laisse-moi boire me'at mayim, un peu d'eau de ta cruche. Agmii, ça veut dire laisse-moi engorger, on pourrait dire. Engorger comme engranger, c'est-à-dire mettre dans la gorge. Gmiya achat, comme une gorgée en fait. Il a demandé une gorgée. Alors elle lui a donné à boire. Et puis, le pasouk dit, Vaish Mishtaela. Et l'homme, il regarde, il est ébobi, il est complètement fasciné par cette fille. Pinchas Beshem Rav Hanan Amar, Mematzmet, Mabitba, Aitzliach Hashem Darko. En fait, vous voyez dans Motz, il suçait l'eau pour que ça prenne plus de temps. Il ne voulait pas boire parce que tant qu'il était en train de sucer, il était en train de téter l'eau, quoi. Il était en train de téter la cruche de Rivka, parce que pendant ce temps-là, il la regardait, il se demandait, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je suis en train de réussir? Est-ce qu'Hachem m'a fait réussir? Donc, elle a, comme prévu, elle a fait boire les chameaux, etc. Quand les chameaux ont terminé de boire, alors il a sorti les bijoux. Nezem Zahav, il lui a donné un anneau. A priori, c'est un anneau qu'on met, je ne sais pas, c'est une espèce d'anneau qu'on met sur le front, ou je ne sais pas, au début du nez, ou je ne sais pas quoi. Nezem Zahav, un anneau d'or. Ravuna, Bishem Rabbi Yosef, Even Yikara Hayabo, Vaya Mishkala Beka. L'anneau, il avait. Parce qu'il faut comprendre, ce qu'il a pris, c'est un anneau d'or qui était un béka. Mais de l'or, dans un anneau d'un béka, ça donne un anneau très grossier, trop gros, c'est pas beau. Esthétiquement, c'est pas beau. C'est pour ça que Ravuna dit, non, L'anneau, il pesait pas grand-chose. Mais il y avait une pierre précieuse qui, elle, pesait un demi shekel. C'est-à-dire un béka, c'est un demi shekel. Donc tout le poids, quasiment, c'était le poids de la pierre. Donc la pierre, elle peut peser, donc ça, ça dérange pas. L'anneau, s'il était trop, qui était entièrement en or, de ce poids-là, ça aurait été beaucoup trop grossier, en fait. C'est pas beau. Et il a donné deux bracelets, et le poids d'or de ces, le poids de ces bracelets, c'était 10 shekels d'or. Qu'est-ce que c'est que ces deux anneaux? Deux, ça correspond au Shneluchot, aux deux tables de la loi. Un poids de 10, 10, c'est la Aseret HaDibrot. Et ensuite seulement il lui demande, Vayomer Bat Miat, tu es la fille de qui? Donc il lui a donné les bijoux, il ne sait pas qui elle est. Là, on pourrait le dire, mais peut-être que cette fille est une servante. Peut-être que ces gens envoyaient au puits une servante. C'est la suite de sa mauvaise formulation. Il ne lui vient pas à l'idée que ça pourrait être une servante. Qui lui a donné donc quelque chose qui on peut pas regarder ce midrash sans y aller quelque chose. L'Aseret HaDibrot, d'une certaine manière, c'est toute la Torah. Alors, bien entendu, il faut travailler pour voir que c'est toute la Torah. Alors, le travail, il a été fait. C'est Rav Sadia Gaon qui a fait le travail au Xe siècle. Il a fait le travail pour montrer comment toutes les mitzvot se rattachaient à ces Aseret HaDibrot. Les Sfardim, enfin, certains Sfardim ont l'habitude, à Shavuot, l'après-midi, de lire, justement, ce travail de Rav Sadia Gaon. Donc, qu'est-ce qu'il a donné? C'est une espèce de Matan Torah, non? Il y a eu un Matan Torah. Il lui a donné, il donne à cette fille, il lui donne la Torah. C'est une espèce de précurseur du Matan Torah. Donc, lui, Eliezer, il agit. Bon, il est le serviteur de, il est le serviteur d'Abraham, mais on va voir que quand ils vont arriver et qu'ils vont voir Yitzhak, vous vous souvenez, Rivka, elle demande à Eliezer, c'est qui le bonhomme là-bas? Et Eliezer dit, c'est mon maître. Mais c'est Yitzhak, c'est pas Abraham. Il dit, néanmoins, c'est mon maître. Certains disent que, enfin, presque tout le monde dit, que Eliezer, il a donné des kiddushin à Rivka. Peut-être que comme c'est la seule chose dont on le dit, voilà, c'est ça qu'il lui a donné. Et c'est possible que cet or-là, cette pierre précieuse et tout ça, ça appartenait à Yitzhak déjà. Et peut-être donc il a donné ça comme kiddushin. Il a donné les Kiddushin au nom d'Yitzhak. De sorte que quand elle quitte ses parents, elle est Mekoudeshet à Yitzhak. Seulement, comme lui, il est un Evet, et qu'un Evet ne peut pas être Shaliach, donc ces Kiddushin, ils ne sont pas, halakhiquement, ils ne sont pas terribles, quoi. Du coup, Yitzhak, il va refaire des Kiddushin. Il va la réépouser. Mais entre-temps, il aura vérifié qui elle était. Il va l'installer dans la fameuse tente de Sarah. Et quand il va voir qu'effectivement, cette jeune fille qui commence sa carrière finalement, elle est dans la tente et tout se passe comme ça se passait lorsque Sarah, qui avait 127 ans, occupait cette tente. Alors il comprend bien que voilà, c'est elle, et du coup il lui donne des kiddushin et il l'épouse. Voilà. Mais il y a quelque chose, donc il lui a donné, alors, disons que c'est le Shem Kiddushin, mais même si ce n'est pas le Shem Kiddushin, il veut la faire entrer dans la famille d'Abraham, en fait. Et donc, Abraham, il est connu comme sa qualité. Hachem dit, pourquoi je traite Abraham de façon particulière? C'est parce que Abraham c'est quelqu'un qui est un transmetteur. Il transmet les valeurs. Alors, on dit qu'Abraham, il a été quand même la Torah Kula, avant qu'elle ait été donnée. Donc, ici, symboliquement, il l'a fait entrer en lui donnant, il lui transmet la Torah. Et elle accepte en quelque sorte ce cadeau, donc ça veut dire qu'elle a reçu la Torah. On comprend bien que la femme qui va assurer le passage de Abraham à une autre génération, quelque part, qui va assurer le passage à Yaakov, à Binou, à Israël, etc. Cette femme-là, d'accord, elle reçoit la Torah. Il y a une espèce de Kabbalat à Torah à ce moment-là. C'est ça qu'on vient nous dire, enfin, me semble-t-il. Donc, il lui dit... Tu es la fille de qui? Et dans la foulée, il lui dit, et en même temps, raconte-moi, Guidi, Na, Li, c'est-à-dire, raconte-moi, s'il te plaît, Aïesh, Betavich, Makom Lanou, Lalin, est-ce que dans la maison de ton père, il y a de la place pour que nous y passions une nuit? Laïlahat. Une nuit. Elle demande une nuit. Il demande une nuit, pardon. Va tomber Elav. Et elle lui répond. Gam makom la lune. Non, non, non. Il y a aussi la place pour plusieurs nuits, pour y passer plusieurs nuits. Chazal dit ici, il enseigne. Vous voyez, c'est une maison idolâtre. Mais dans cette maison, il y a une place pour l'hospitalité. Il y a des pièces pour recevoir des gens avec leurs chameaux, etc. Ça se passe entre idolâtres, hein, bien sûr. Mais l'hospitalité... Cette qualité-là, elle est là chez eux. Alors, on dit que c'est quelque chose qu'on trouve très fréquemment dans les habitants du désert. En tout cas, ce qui est important ici, c'est que cette qualité d'hospitalité qu'on a trouvée chez Abraham Avinu, qui est une façon de gmilut chassadim, faire du chesed. Donc c'est une famille de, on va voir, éventuellement d'idolâtres, d'assassins, mais ils font du chesed. Ça, c'est impératif. Et ça, c'est certainement le critère que Abraham Avinu est allé chercher chez eux. Il sait très bien que c'est les idolâtres. Vous voyez, les peuples qui sont vraiment exclus du clan Israël, qui ne peuvent pas entrer dans le clan Israël, Ammon et Moab. Pourquoi, en quoi est-ce qu'ils sont disqualifiés? Manque d'hospitalité. Ils n'ont pas offert aux Bnei Israël le pain et l'eau que normalement on doit offrir. S'il n'y a pas d'hospitalité, on a l'impression que il n'y a pas de reconnaissance de l'autre, donc il n'y a rien. C'est des bêtes sauvages. Il y a de la place. Il lui demande une nuit, elle lui dit, mais tu peux rester plus longtemps. Et ça doit être tellement évident qu'une petite fille peut le dire. Elle a le droit d'inviter des gens, ça veut dire. C'est tellement évident que même elle, elle peut le faire. On ne va pas se dire, mais les parents ils vont venir derrière et dire, oh, la petite fille vous a invité, mais nous, on ne vous a pas invité. C'est tellement évident, c'est clair, elle est née dans une maison où il y a des pièces qui sont réservées à l'hospitalité. Mais c'est vrai que dans ces pièces, les gens qui ont passé par là, ils ont laissé des choses. Et bien, dans ce qu'ils ont laissé, il y a probablement des éléments idolâtres, des éléments d'idole ou d'adoration, ou des choses comme ça. Et ça, on va voir que ça, il faudra l'enlever pour que Eliezer puisse y entrer. Et ça, on va voir que ça, c'est Lavan qui va dire, mais je l'ai fait. Lavan va dire, j'ai fait la place. Et on voit bien, ou bien c'est un menteur, ce qui n'est pas impossible, parce que sa sœur a déjà dit qu'elle a la place. Or, quand il dit j'ai fait la place, il n'avait pas encore vu Eliezer, ni les chameaux, ni rien. Il dit j'ai fait la place. Donc, c'est possible que d'après ce qu'il a entendu de sa sœur, il a compris que c'était pas un idolâtre, le bonhomme. Et que peut-être, effectivement, Piniti et Tabait, j'ai nettoyé la maison, il y avait de la place. Mais j'ai enlevé toutes ces traces d'idolâtrie qu'il y avait. Ça veut dire qu'il y avait des crucifix partout au mur. Enfin, ou l'équivalent. C'est comme dans une maison bretonne. Partout, il y a des... Alors, on va terminer avec ça. Vaikod ha'ish vaishtachu l'Hashem. Il entend quelle est la fille de Nahor, enfin la fille de Betuel, le fils de Nahor, etc. Il entend que c'est la famille qu'il fallait, quoi. Mais rien n'est fait. Hein. Il ne lui a pas encore demandé de venir avec lui. Il ne sait pas du tout si elle sera d'accord. Il ne sait pas si les parents seront d'accord. Il n'a même pas encore bénéficié de l'hospitalité. Il a entendu que l'hospitalité lui serait donnée. Mais c'est que des choses entendues. Il n'y a encore rien de concret. Et néanmoins, Mikan, Shemodim al-Besura Tova. On apprend de là qu'il faut exprimer sa reconnaissance, il faut être reconnaissant à l'exprimer probablement, même sur une seule bonne nouvelle. Pas seulement dire merci quand vous avez passé 15 jours chez quelqu'un, et vous dites merci. Okay. Non. Et là, en l'occurrence, il dit merci à Hachem de lui annoncer, parce qu'à la limite, on pourrait presque dire que même si ça s'avère faux, jusqu'au moment où ça s'avérera faux, il aura été serein. Je sais où on dort cette nuit. Ça a une valeur, déjà. Même si, finalement, ça ne se contredisait pas. Après, il y aura une déception. Mais il faut savoir que, en ce qui concerne la reconnaissance, il faut s'habituer à décomposer les choses. Et être reconnaissant sur tous les éléments qui constituent la chose pour laquelle on est reconnaissant. Nous, on a la reconnaissance pour, voilà, globale, quoi. C'est un prix gros, quoi. Un merci pour tout. Mais de là, on apprend qu'il faut être reconnaissant même pour tous les éléments constitutifs du chesed dont on va bénéficier, dont on a bénéficié. Et c'est comme ça dans toute la vie, en fait. Il faut être reconnaissant pour les différentes étapes. Même si finalement ça ne donne pas ce que ça aurait donné. Ça peut être difficile. Mais ce serait une erreur de ne pas être reconnaissant pour ces moments-là, qui étaient des moments très agréables, même si par la suite, c'est devenu désagréable. Une des raisons pour laquelle on accepte les convertis égyptiens, malgré tout ce qu'ils nous ont fait. Bon, on ne les accepte pas tout de suite, il faut qu'ils entrent une génération, deux générations. Mais disons, on les accepte à terme. Pourquoi? Parce qu'on a habité chez eux pendant un certain temps. Oui, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous voulez, c'est comme si on disait aujourd'hui, et peut-être qu'il faut le dire, il faut être reconnaissant aux Allemands, aux Polonais, chez lesquels on a habité pendant des moments où c'était très agréable. Quoi qu'il se soit passé par la suite. Ce n'est pas du tout pour dire que la suite, il faut être content. Non, c'est les crapules, c'est devenu des assassins, etc. Mais il y a eu des moments où on a profité. Et il faut être reconnaissant pour cela. Au moins reconnaissant à Hachem qui nous a permis de bénéficier de ça aussi. Peut-être même que si c'était audible, c'est peut-être pas audible d'être reconnaissant, si j'exprime ma reconnaissance pour l'Allemagne, parce qu'il y a eu des moments où effectivement on était très bien. Je ne sais pas si on n'a jamais été vraiment très 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 bien, mais on a été bien peut-être. Et la Pologne, Pauline, ça veut dire on a été accepté en Pologne, les bras ouverts. Après, l'Église a pris ombrage, etc. Donc, ensuite, ils sont devenus antisémites de première classe. Mais il y a eu des moments où ils étaient philo-sémites, si vous voulez. Et quelques. Ah, on doit être reconnaissant pour ces moments-là. C'est difficile, hein? C'est ça qui est important. Modim al-Besura Tova. Tout ce qu'il y a ici, c'est une bonne annonce. Une annonce agréable. Mais il ne s'est encore rien passé. Et lui, il est déjà en train de se prosterner devant la chaîne. Voilà, ça va être là.